Malheur à vous, hypocrites. Troisième partie. Matthieu, chapitre 23, versets 13 à 31. Jamais un groupe d'individus n'a fait l'objet d'une critique aussi virulente par le Seigneur Jésus que les pharisiens. Nous avons vu dans les deux dernières leçons qu'en Matthieu, chapitre 23, Jésus les accuse d'être des hypocrites à 6 reprises. Versets 13, 15, 23, 25, 27, 29, et explique les diverses manifestations de ce défaut. Nous avons mentionné qu'il s'agit d'un problème très sérieux pouvant mener à la mort spirituelle. Jésus affirme clairement que la destinée des hypocrites se termine en enfer. Comment pourrez-vous échapper à la condamnation de la géhenne, leur fait-il remarquer en Matthieu chapitre 23, verset 33. Qu'est-ce que l'hypocrisie selon la Bible? Peut-on la définir d'une manière concrète et sans détour? C'est ce que nous tenterons de faire dans cette leçon. Les pharisiens et les scribes ne sont pas les seuls à avoir été accusés d'hypocrisie. Dans les Écritures, même de bonnes personnes ont été associées un comportement hypocrite. Prenons l'exemple de Pierre et de Barnabé. Galates chapitre 2, versets 11 à 13. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Hypocrisis. Après son arrivée à Antioche, Pierre n'hésita pas à vivre en communion avec les chrétiens convertis du paganisme, mangeant sans scrupule avec eux. Cette décision pouvait le mettre dans une situation où il aurait à consommer de la nourriture interdite par la loi mosaïque. Mais il n'en faisait aucune difficulté, car il était né pour héritier du salut aussi bien que les croyants juifs. Un jour, quelques juifs arrivés de Jérusalem à Antioche se scandalisèrent d'une telle conduite. Ébranlés, Pierre n'a pas eu la force de résister à leurs préjugés et décida de s'éloigner des frères non-juifs. Galates chapitre 2 utilise le terme « dissimulation » pour décrire l'attitude de Pierre et « hypocrisie » pour celle de Barnabé, qui a suivi l'exemple de Pierre. Par crainte des émissaires de Jacques, Pierre, Barnabé et d'autres croyants juifs sont devenus des hypocrites. On pense souvent que l'hypocrisie signifie insincérité, qu'une personne hypocrite joue un double jeu. On retrouve d'ailleurs le mot « double jeu » dans la traduction de la Nouvelle Bible Second en Galates chapitre 2, verset 13. Les autres Juifs aussi sont entrés dans ce jeu, au point que Barnabé lui-même s'est laissé entraîner par leur double jeu. Hypocrisis. Bien que la notion d'insincérité puisse faire partie de l'hypocrisie, je ne crois pas qu'elle en soit une composante principale. Dans l'incident à Antioche, Pierre n'a pas fait preuve d'insincérité. Ce n'est pas le reproche qu'on lui faisait. On le réprouvait pour sa faiblesse devant la critique. Craignant la réaction des hommes, Pierre s'est montré inconséquent face à ses convictions. Il avait peur de ce qu'on allait rapporter sur lui aux chrétiens de Jérusalem. Alors il décida de se tenir à l'écart des croyants non-juifs. Son geste n'avait pas comme motif de tromper qui que ce soit, mais il a eu pour conséquence de donner la fausse idée qu'un non-juif doit se faire juif pour être chrétien. Il n'était pas question non plus de feindre ses sentiments. Pierre n'était pas en train de faire semblant de renier ses convictions sur la liberté chrétienne de ceux que Dieu a appelés à la foi du sein du paganisme. Maintenant donc, avait-il déclaré à la conférence de Jérusalem, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux, eux, c'est-à-dire les croyants non-juifs. Actes chapitre 15, versets 10 et 11. Lorsque Jésus dit « Vous ressemblez à des tombeaux blanchis, beaux au dehors, mais pourris au dedans », il n'accusait pas les pharisiens de faire semblant d'être des tombeaux blanchis. Ils étaient, dans les faits, des tombeaux blanchis. Ils étaient morts à l'intérieur, mais donnaient encore l'impression d'être vivants de l'extérieur. Nous avons mentionné dans la dernière leçon que l'église de Sardes avait la réputation d'être vivante, mais en réalité, elle était morte. Encore une fois, cela ne signifie pas que cette église feignait d'être vivante. Il fut un temps où elle débordait de vie spirituelle. Il ne reste maintenant qu'une forme de piété, sans aucun principe de vie à l'intérieur. Dans les autres épîtres, le mot « hypocrisie » est souvent associé au mensonge et à la médisance. 1 Timothée, chapitre 4, verset 2. Disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1. Rejetant donc toute malice et toute fraude, et l'hypocrisie et l'envie, et toute médisance. Le mensonge et la médisance se répandent par le biais d'individus qui savent mettre les apparences en leur faveur, mais dont la sensibilité au péché a été oblitérée par une conscience impure. Il y a ici une perversion de la conduite. Il en est de même de l'hypocrisie. C'est pourquoi nous retrouvons le mot « hypocrisie » dans ces passages. Ainsi, l'hypocrisie se rapporte davantage à la perversité qu'à l'insincérité. Dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, il est intéressant de noter que le terme « hypocrite » est utilisé en Job chapitre 34, verset 30, et Job chapitre 36, verset 13, pour décrire un homme qui agit de manière perverse. Lisons Job 34, 30. « Afin que l'hypocrite, hypocritas, ne règne point, de peur qu'il ne soit un filet pour le peuple. » Soulignons que la Septante a utilisé le mot « hypocrites » pour traduire le mot hébreu « kanaf », qui signifie « souillé, pollué, profané ou corrompu ». De cette observation, on peut conclure qu'un hypocrite est essentiellement un individu pervers. D'ailleurs, les traducteurs de la plupart des Bibles françaises ont choisi l'expression « l'homme impie » ou « l'homme pervers » pour « kanef ». Job chapitre 34, verset 30 « Pour que ne règnent pas des hommes pervers, kanef, qu'il n'y ait pas de siège pour le peuple. » La perversité est donc une caractéristique fondamentale de l'hypocrite. Le mot « kanef » est utilisé 18 fois dans l'Ancien Testament. Il apparaît 8 fois dans le livre de Job pour montrer le destin tragique de celui qui est corrompu. L'homme pervers, l'hypocrite, ne pourra jamais avoir accès auprès de Dieu. L'idée de la corruption se voit également par la manière dont le Seigneur Jésus utilise le mot « hypocrisie » dans certains passages parallèles. Prenez l'incident où les pharisiens demandent s'il est permis de payer le tribut à l'empereur de Rome. En Marc chapitre 12, verset 15, nous retrouvons le mot hypocrisie. Voici ce qu'on lit. Est-il permis de payer d'incapitation à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Connaissant leur hypocrisie, il leur répondit, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve? Apportez-moi un denier que je le voie. » Lorsque nous comparons ce passage à celui de Matthieu chapitre 22, verset 18, le passage parallèle, nous remarquons un mot différent. « Hypocrisie » est remplacé par le mot « méchanceté ». Matthieu 22, verset 18. Et Jésus, connaissant leur méchanceté, dit, « Pourquoi me tentez-vous hypocrite? Montrez-moi la monnaie du tribut. » Et lorsque nous examinons Luc, chapitre 20, verset 23 et 24, un autre passage parallèle, nous retrouvons le mot « perfidie ». Perfidie. Et s'approchant de leur et s'apercevant de leur perfidie, il leur dit, « Pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi un denier. De qui a-t-il l'image et l'inscription? » Et répondant, ils dirent, « De César. » La tentative des pharisiens de se saisir de Jésus en lui posant une question piège est décrite comme un acte d'hypocrisie en Marc, de méchanceté en Matthieu et de perfidie en Luc. Hypocrisie, méchanceté, perfidie. Tous ces termes soulignent une idée commune, les mauvaises intentions des chefs religieux. Il est question d'un malice, d'un esprit de tromperie. Encore une fois, on voit que l'hypocrisie ne consiste pas exactement à feindre quelque chose ou à être insincère. Nous constatons donc que le mot « hypocrisie » dans la Bible est assimilé à diverses formes de souillure morale. De l'extérieur, la personne semble vivre pieusement, mais à l'intérieur, il n'y a que corruption. Il n'est donc pas étonnant de retrouver en Matthieu chapitre 23 l'un à côté de l'autre, les mots « hypocrisie » et « iniquité ». Matthieu chapitre 23, verset 28. « Ainsi, vous aussi, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. » Continuons à approfondir notre étude sur l'hypocrisie. J'aimerais maintenant vous parler de quatre caractéristiques de ce défaut. Jésus utilise le mot « hypocrisie » en Matthieu chapitre 6, versets 2, 5 et 16 pour parler de personnes qui accomplissent de bonnes actions, comme l'aumône, la prière et le jeûne, mais dont le motif est de bien paraître devant les autres. Notez à nouveau que le terme n'est pas utilisé pour désigner l'insincérité. Il est question ici d'une personne dont la pensée est charnelle. Elle est plus soucieuse de l'opinion des autres que de celle de Dieu à son égard. C'est ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre. Il avait peur de ce que les croyants juifs venus de Jérusalem pouvaient penser de lui en le voyant manger avec des non-juifs. À ce moment-là, il n'avait pas les priorités à la bonne place. Il était plus préoccupé par la réaction des hommes sur sa conduite que par le désir d'obéir à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Galates 2 rapporte qu'il agit avec hypocrisie. Voilà donc un trait de l'hypocrite. Il a plus peur des hommes que de Dieu. Une autre caractéristique de l'hypocrite est celle-ci. Il est prompt à critiquer les autres, mais lent à se critiquer lui-même. Vous vous rappelez des paroles de Jésus en Matthieu chapitre 7, verset 5. « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Cette phrase signifie que l'hypocrite ne manque pas de relever le moindre mal chez les autres, alors qu'il est beaucoup moins enclin à le faire quand il s'agit de ses propres fautes. En fait, il ne ressent aucun besoin de s'examiner, encore moins de corriger ses défauts. même les plus grands et les plus visibles. Il ne sait pas faire de l'autocritique. La troisième caractéristique de l'hypocrite concerne sa tendance à réduire la vie spirituelle à l'observation de commandements et de règles. À cet égard, il accorde la priorité à la tradition des hommes plutôt qu'à la parole de Dieu. Matthieu chapitre 15, versets 7 à 9, le décrit très bien. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Déjà dans ce passage, Jésus critique les chefs religieux en les traitant d'hypocrites. Dans quel sens sont-ils des hypocrites? Le Seigneur rapporte les paroles du prophète Isaïe, Isaïe chapitre 29, verset 13, pour expliquer qu'ils avaient ajouté à la loi de Moïse de nombreuses traditions. Leur adoration était vaine, car elle reposait davantage sur des commandements de leur invention que sur la vérité divine. Cette réprimande aux pharisiens s'applique à nous également. Chaque Église a ses façons de faire les choses. Nous devons veiller à ce que celle-ci ne remplace pas en nous les éléments essentiels de la parole de Dieu. Nous devons également apprendre à ne pas juger les autres d'après les règles que nous nous sommes forgées ou celles qui ont cours dans notre entourage religieux. Soyons ouverts à la possibilité qu'un frère n'est pas laxiste pour autant, mais qu'il a peut-être en Christ une meilleure liberté que nous. Il y a une quatrième caractéristique que Jésus mentionne à propos des hypocrites. Lisons Matthieu chapitre 24, versets 48 à 51, une parabole sur le retour du Seigneur. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous constatons ici que les méchants sont regroupés avec les hypocrites. Le méchant serviteur du verset 48 rejoint les hypocrites au verset 51. Et qu'adviennent-ils de ces hypocrites? Ils vont pleurer et grincer des dents. Ils seront jetés en enfer où ils souffriront. Dans le plan divin, le sort des hypocrites est identique à celui des méchants, c'est-à-dire ils iront en enfer. Il en sera ainsi des voix de tous ceux qui oublient le Dieu fort, et l'espérance de l'hypocrite périra. Nous lisons en Job chapitre 8, verset 13. Si vraiment nous croyons en cela, au fait que l'hypocrite n'a pas d'autre avenir que de périr, la seule réaction sensée est de tout faire pour s'éloigner de l'hypocrisie. Mais vous savez, le fait de connaître les dangers de l'hypocrisie n'empêche pas nécessairement un individu de devenir un hypocrite. Prenons à nouveau l'exemple des pharisiens. On ne peut nier qu'ils étaient très conscients des dangers de l'hypocrisie. Les pharisiens savaient parfaitement que la piété pouvait n'être qu'une façade derrière laquelle se cachent toutes sortes de défauts. Il y a un passage dans le Talmud, en Sota 22b, qui énumère d'une manière plutôt comique 7 types de pharisiens. De ces 7 types, 5 sont qualifiés d'hypocrites. On retrouve par exemple le pharisien contusionné. Celui-ci a la caractéristique de se frapper la tête contre le mur jusqu'à ce qu'il saigne. Pourquoi a-t-il un tel comportement? Parce qu'il a peur de regarder une femme. Il craint qu'en posant son regard sur une femme, il ait des penchés charnels. Il y a aussi le pharisien Pilon. Ce type de pharisien est si soucieux de paraître humble qu'il marche avec le dos courbé au point de ressembler au pilon dans un mortier. Les pharisiens reconnaissaient que le problème de l'hypocrisie touchait leur communauté et ils le condamnaient fermement. Mais cela n'empêchait pas l'hypocrisie de prendre racine parmi eux. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, leur dit Jésus à plusieurs reprises en Matthieu chapitre 23. » Il est naturel de penser qu'en alertant quelqu'un d'un danger, ce dernier va prendre des précautions pour l'éviter. Mais cette logique s'applique difficilement à l'hypocrisie. Voyez-vous, l'hypocrisie n'est pas une caractéristique unique des pharisiens. Dans ce sens, elle fait partie de la nature humaine. Un esprit hypocrite sommeille en chacun de nous. Chaque individu y est porté, sans même qu'il ne s'en rende compte. Développons davantage ce point. Le mot hypocrite est utilisé 17 fois dans le Nouveau Testament. Curieusement, tous ces 17 passages proviennent de l'enseignement de Jésus. Nous avons vu quelques exemples dans cette leçon. Lorsque nous examinons l'ensemble de ces versets, nous faisons l'observation suivante. Lorsque Jésus parle d'hypocrisie, il semble toucher à la nature même de l'être humain. Dans le Sermon sur la montagne, en Matthieu chapitre 6, Jésus enseigne que les hypocrites accomplissent leurs devoirs religieux de manière à être remarqués par les hommes, faire des actions pour impressionner les autres. N'est-ce pas un trait de la nature humaine? Il dit aussi que les hypocrites s'occupent plus volontiers du fétu qui est dans l'œil des autres que de leurs propres manquements. Cette propension à critiquer les autres, à porter un jugement sur les autres plutôt que sur lui-même, ne se trouve-t-elle pas chez chaque être humain? Soyons honnêtes. Tout le monde attache de l'importance à son apparence, à ce qui est extérieur, car nous nous soucions de ce que les autres pensent de nous, et c'est normal. Mais en plus, nous aimons accentuer l'image que nous voulons donner à autrui. Alors nous prenons le temps de faire briller l'extérieur de la coupe. Mais pour ce qui est de l'intérieur, nous lui consacrons beaucoup moins de soins, puisque les gens ne le voient pas. Mettre en valeur le personnage plutôt que la personne, n'est-ce pas un autre trait de la nature humaine? Il est aussi curieux de constater que dans la vie, il nous arrive régulièrement d'insister sur des choses plutôt insignifiantes au détriment de sujets autrement plus importants. On réagit vivement parce que quelqu'un arrive en retard en rendez-vous. Quand il s'agit de faire preuve de miséricorde, étrange, on y met moins d'énergie. Ça vient beaucoup moins naturellement. Pharisiens hypocrites, vous donnez méticuleusement la dîme, mais vous êtes négligent sur les priorités bibliques. Typiquement humain. Vous voyez pourquoi je dis que l'hypocrisie fait partie intégrante de la nature humaine. Dans notre état naturel, nous avons tous une tendance à nous comporter de manière hypocrite, selon la description de la Bible. Personne n'en est exempt. L'hypocrisie est dans l'ADN de l'homme naturel. L'homme, dans son égocentrisme, dans son égoïsme, dans sa pensée superficielle et matérialiste. Nous pouvons donc conclure que le problème de l'hypocrisie est un problème qui concerne la nature humaine. Par conséquent, on ne peut pas prendre des mesures pour contrer son influence sans discuter du problème fondamental de l'être humain. Et c'est ce que nous ferons à la prochaine leçon. Nous parlerons de la solution que la Bible offre pour surmonter l'hypocrisie.